d'emploi. Mode d'emploi.
Bonsoir à tous et à toutes. Vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi avec Ludo et Gilles au micro. Salut Ludo.
Bonsoir.
Et Claude à la technique comme d'habitude. Ce soir, nous parlerons des offensives contre les chômeurs, des déclarations de Wauquiez et Gattaz, de la politique réactionnaire de Macron, de l'ISF, de l'IFI, des cadeaux faits aux plus riches, de la flat tax, entre autres. Nous allons commencer cette émission, bien sûr, avec Ludo sur les chiffres du chômage. Comme c'est un leurre, il paraît que les chiffres, les chômeurs, il y en a de moins en moins aujourd'hui. Qu'en est-il, justement, Ludo? Excuse-moi.
Écoute, le gouvernement avait promis qu'il n'utiliserait plus les chiffres de Pôle emploi. Et vous connaissez le proverbe, cochon qui s'en dédie.
Voilà.
Donc, quand les chiffres ont baissé, il n'a pas manqué de les réutiliser. Et donc, effectivement, ils ont baissé de façon spectaculaire.
Sur
un mois à Pôle emploi, bien sûr, mais une baisse en fait que personne ne parvient à expliquer. Et puis il s'agit des chiffres de Pôle emploi, donc vous savez, les chiffres de Pôle emploi en fait ils sont une espèce de stagnation,
oui,
avec une tendance baissière sur la longue, mais
ce
légère.
Qui ne concerne que les inscrits pour le coup.
Exactement,
voilà,
qui exclut effectivement les chômeurs qui ne se seraient pas inscrits. Et donc pour la... je rappelle que 44% des chômeurs aujourd'hui sont indemnisés à Pôle emploi. D'accord.
C'est-à-dire, c'est un sur deux.
C'est
quoi.
Pas beaucoup. C'est moins d'un sur deux.
C'était
tout le temps en baisse. Et ça veut dire qu'effectivement, un chômeur inscrit, donc supposé faire des recherches actives d'emploi, n'est pas indemnisé. Au moins un chômeur sur deux. Voilà. Et il faut rajouter les quelques pourcents de gens qui touchent. Qui touche l'allocation, non pas de dispense de recherche d'emploi, mais
du retour à l'emploi, la RE.
Non, l'allocation, justement après 5 ou 10 ans.
Ah oui,
le fin de droit, hein. L'allocation de fin de droit,
c'est
en fait,
ça.
Hein, quand on
l'ancienne ASS.
Tout à fait, l'ancienne ASS. Voilà, mais donc bon, c'est pas brillant. Et alors voilà, donc on a nous fait tout un marronni, mais enfin, on est quand même, les commentateurs sont prudents et ils ont bien raison parce que à regarder à la loupe ces chiffres. Donc effectivement, c'est les chiffres du chômeur qui n'ont pas travaillé une heure dans le mois précédent. Leur inscription.
Catégorie A, c'est me semble.
Voilà, catégorie A. Et effectivement, ce chiffre-là a baissé. En revanche, tous les autres chiffres ont augmenté. Ça, c'est pas de chance. Et donc, notamment, les chiffres donc de ceux qui travaillent à temps partiel, mais qui aimeraient ou travailler plus ou trouver un autre emploi, hein, pour travailler, en général, pour travailler plus d'ailleurs. Et donc, du coup, ceux qui travaillent moins d'un mi-temps, donc les moins de 78 heures, la catégorie B, et la catégorie C, ceux qui travaillent plus de 18 heures, plus d'un mi-temps, ces deux catégories-là ont augmenté. Et même si on se penche en fait sur la catégorie A, eh ben on s'aperçoit qu'il y a des laissés pour compte dans la baisse des chiffres du chômage et qui sont toujours les mêmes, c'est-à-dire non, pour une fois nous ne sacrifions pas notre jeunesse puisqu'il semblerait que le chômage des jeunes baisse, mais en principe les jeunes sont les premières victimes du chômage, les jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Donc traditionnellement d'ailleurs une partie des chiffres du chômage s'explique par l'arrivée des jeunes sur le marché du travail. En revanche, les seniors sont impactés puisque leur taux continue à augmenter. Et d'ailleurs, on peut préciser que les réformes de l'UNEDIC qui visent éventuellement à abaisser la durée d'indemnisation, enfin plutôt à relever à 55 ans, la durée d'indemnisation, elle était de 3 ans pour les plus de 50 ans. Désormais, ça sera 55 ans. Donc voilà, on imagine ce que ça va donner pour les pauvres seniors qui, quand ils sont au chômage à 50 ans, c'est toujours un peu compliqué de retrouver du boulot. Donc cette catégorie-là continue à augmenter. Et surtout, c'est la catégorie des chômeurs de longue durée qui atteint des proportions terribles, puisque 2/3 des chômeurs aujourd'hui sont des chômeurs de plus d'un an, au moins, sachant que dessus... Je crois qu'il y en a au moins la moitié qui sont des chômeurs de plus de 2 ans.
C'est-à-dire qu'ils ne touchent aucune allocation puisqu'ils ont des sorties.
Ah, donc plus d'un an, si, on peut toucher, oui, c'est 2 ans maximum. C'est 2 ans maximum. Mais effectivement, une partie des chômeurs de longue durée, mais sauf que, en fait, ces chiffres-là, ça veut pas dire qu'il y a un stock éternel de chômeurs de plus d'un an, mais ça veut dire que la durée de retour à l'emploi est quand même très longue. C'est-à-dire qu'il faut au moins un minimum effectivement un an pour retrouver de l'emploi, et on peut espérer que c'est pas toujours les mêmes, mais effectivement si la catégorie des 2 ou 3 ans augmente, des plus de 2 ans, plus de 3 ans augmente de façon significative, c'est pour ces gens-là on peut se faire du souci. Mmh. Et donc effectivement on sait qu'il y a une partie des catégories qui passent en dessous du radar statistique de Pôle emploi, c'est-à-dire de gens qui sont au chômage depuis plus de 3 ans et qui ne font même plus la démarche de s'inscrire. Mmh. Bien sûr.
Bien sûr. Et excuse-moi, juste une question. Il y a également les chiffres, on parlait des chiffres évidemment de Pôle emploi qui sont effectivement sur les inscrits, mais il y a également les chiffres sur toute la population française de l'INSEE sur le chômage, et il y a également les chiffres de l'OIT. Donc,
alors,
pour le coup,
non, c'est pas les chiffres de l'OIT, c'est les chiffres de l'UNEDIC. Alors, les chiffres de l'UNEDIC sont des prévisions aussi, donc ça, je reviens pas, parce que ils ont été souvent très alarmistes par rapport, bon, mais c'est aussi à leur crédit, hein, d'être honnête. Et justement, en fait, ça m'apporte à la conclusion aussi, c'est que les chiffres de Pôle emploi sont devenus, par certains côtés, moins restrictifs que les chiffres de l'INSEE, puisqu'en fait, les chiffres de Pôle emploi comptent les gens qui sont inscrits à Pôle emploi. Or, par un miracle statistique qui date de 2007, l'INSEE ne compte plus certains chômeurs qui sont inscrits à Pôle emploi si, dans l'enquête de l'INSEE, ils ne déclarent pas avoir fait de démarche de recherche d'emploi au cours des 4 dernières semaines.
C'est ça.
Alors vous me direz, ouais, c'est quand même, ça représente pas beaucoup. Détrompez-vous, ça représentait bien au moins 800 000 personnes, donc chiffre du bureau du chômage.
Ouais.
Oui, c'est-à-dire à peu près 1%, en fait, au moins 1% des chômeurs.
D'accord.
En 2007. Ouais. Donc, ce qui est énorme, et alors effectivement, une partie de ces gens-là sont dans les statistiques de Pôle emploi, mais une partie n'y est pas non plus, parce que dans ce qu'on appelle le chômage, il y a aussi effectivement des gens qui ne sont pas inscrits à Pôle emploi parce qu'ils n'ont pas de raison d'y être. Donc, effectivement, on peut retrouver donc les fameux, une partie des personnes qui ont disparu des écrans radar, on peut les retrouver effectivement dans les chiffres de Pôle emploi, de l'INSEE. Et donc c'est vrai que l'un dans l'autre, on y comprend, en fait, en termes d'emploi, on y comprend plus grand chose. C'est vrai, sauf à se pencher sur la cuisine et puis à rajouter éventuellement le halo du chômage du chiffre de l'INSEE, rajouter éventuellement les temps partiels à chiffre de Pôle emploi, vous voyez, pour compter qu'à la fin, il y a quand même 6 millions de personnes qui sont inscrites à Pôle emploi, et que la suppression des emplois aidés, parce que nous, on a souvent dit ici que finalement, les emplois aidés, d'accord, c'est un vrai emploi, d'accord, on peut ne pas les compter comme chômeurs, mais ils restent inscrits à Pôle emploi, et ça représentait une certaine... On l'a bien vu, hein, 400 000 personnes. Donc, le gouvernement nous a donné raison. Ces gens-là, finalement, retournent à la caisse chômage. Donc, ça fait quand même plus de 6 millions. Oui. Et donc, c'est quand même une...
Je tiens à quand même préciser à nos auditeurs que les chômeurs sont sauvés. Hein, parce qu'en fait, M. Gattaz et M. Wauquiez vont venir à notre aide. Puisque M. Wauquiez dit que Pôle emploi incite les chômeurs à profiter de la vie. Donc ça, c'est une phrase qui sort peut-être un peu de son contexte, mais c'est un peu l'état d'esprit de cette personne, donc de Monsieur Wauquiez, qui est candidat à la présidence des Républicains, hein, faut le savoir. Alors, donc lui, voilà, il pense ceci. Monsieur Gattaz, lui, par contre, est pour effectivement un contrôle quotidien, voire hebdomadaire, du chômeur sur sa recherche d'emploi, pour inciter effectivement, pour vérifier qu'il cherche bien du travail. D'autant plus que Monsieur Macron,
ce qui montre bien que Monsieur Gattaz a souvent pointé à Pôle Emploi, quoi.
Oui, voilà, c'est ça.
D'autant qu'il sait parfaitement de quoi il parle.
Souvenons-nous.
C'est-à-dire d'aller traiter les employés de Pôle Emploi, les gestionnaires, de gens qui incitent les chômeurs à ne pas travailler.
C'est ça, oui. Mais peut-être nous en reparlerons après la chanson. Une petite chanson, merci.
On veut pas du travail.
Eh oui, on ne veut pas du travail, sauf si c'est très très bien rémunéré et si effectivement l'ambiance au travail est considérablement améliorée. Il faut savoir que les gens qui travaillent sont en souffrance pour beaucoup, et les gens qui sont au chômage aussi. Donc vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et précaires avec Ludo et Gilles au micro et Claude à la technique comme d'habitude, l'ancienne émission de Assez agir ensemble contre le chômage. On va reprendre cette émission pour reparler effectivement de M. Gattaz, qui est une source d'inspiration pour de nombreux chercheurs, hein, pour le coup, surtout en neurologie. Nous allons effectivement, il avait dit qu'il y a quelques années qu'il avait mis un pin sur son t-shirt en disant qu'il allait trouver du travail à 1 million de chômeurs. On a vu le résultat. Hein.
Pour le CICE.
Pour le CICE, absolument.
Bon, le coût a été évalué, est astronomique, ramené au nombre d'emplois, qu'il n'a pas créé d'ailleurs, ou très peu.
Très juste. Et aujourd'hui, il veut effectivement contrôler les chômeurs tous les jours, voire toutes les semaines.
Non mais c'est sympa parce que on se demande quelle est la logique en fait. Hein.
C'est-à-dire, je sais pas trop en fait.
On a un chômage qui baisse à peine, très peu, qui a un haut niveau. On sait que statistiquement, il y a moins de création d'emplois que d'arrivées de jeunes sur le chômage, enfin sur le marché du travail, de jeunes qui sont au chômage. Et ce monsieur vient de nous expliquer que les chômeurs ne cherchent pas activement du travail en fait, hein, avec un taux de chômage très très élevé. Alors on se demande quelle logique. Alors effectivement, il pourrait toujours invoquer les emplois vacants. Enfin, on sait très bien que les emplois vacants, en fait, correspond plutôt à des... C'est improprement appelé parce que ça laisse à penser qu'en fait, un emploi vacant est perpétuellement vacant. Rien n'est plus faux. C'est qu'en fait, il est vacant à un moment donné. Et pourquoi il est vacant à un moment donné? C'est qu'il y a une rotation d'emplois importante sur des emplois qui sont très dégradés, dont les conditions de travail sont très dégradées.
C'est le turnover, pour le coup.
Dans une entreprise, dans la restauration, dans le bâtiment. Et effectivement, c'est des secteurs où, par exemple, le contrat d'usage est très utilisé, où ce qu'appellent communément les gens qui travaillent dans le bar, les extras pour ne pas parler effectivement du travail au noir, dont on sait que c'est des secteurs qui sont des grands pourvoyeurs. Et donc on a effectivement une rotation sur ces postes qui à un moment donné ne trouve pas preneur. Donc, et les chiffres eux-mêmes, hein, étant tirés des études de Pôle emploi, sont quand même des offres d'annonces de Pôle emploi qui sont elles-mêmes, qui sont laissées vacantes, mais qui sont elles-mêmes sujettes à caution, dans la mesure où sait que les recruteurs, heureusement, ne passent pas que par Pôle emploi. Je dis heureusement parce que, même au maximum, il y aurait 500 000 emplois vacants, sous le taux très, très nettement exagéré, donc on pense plutôt de 150 000. Monsieur Gattaz, ça ne fait pas de l'emploi pour 3 millions de chômeurs et pour 6 millions d'inscrits à Pôle emploi. Et donc on a entre lui et Laurent Wauquiez. Alors Laurent Wauquiez, on peut comprendre qu'en fait il cherche à plaire à sa base électorale.
Absolument.
Et à complaire à son fonds de commerce.
Oui, qui est plus en plus frontiste, hein, puisque on sait que monsieur Wauquiez quand même il est extrêmement libéral, mais bon, c'est quand même un populiste bien marqué à l'extrême droite, enfin à droite en tout cas.
À l'extrême de la droite.
À l'extrême de la droite, merci. Et donc là, effectivement, ces déclarations ne s'en prennent plus personne, puisqu'on sait d'où il vient et où il va, quoi.
On sait d'où il vient, on sait qu'il vient d'une des familles les plus riches du Nord.
Moi, j'ai quand même une question parce que quand ces déclarations sont faites par M. Wauquiez et M. Gattaz, je pose une question, c'est que ces gens-là ne connaissent absolument pas le domaine du chômage. Hein,
tout indique dans leur parcours professionnel qu'ils ne sont effectivement pas passés par la question.
Ouais, alors qu'est-ce qu'ils font à l'UNEDIC alors? Pourquoi il y a une représentation patronale à l'UNEDIC alors qu'il n'y a même pas de représentation des chômeurs comme ceux que nous représentons ici, c'est-à-dire les quatre, la PES, MNCP, AC, etc., qui demanderaient éventuellement d'être représentés, puisqu'on représente quand même un certain nombre de personnes aussi, pour le coup.
D'un certain point de vue, d'abord l'État a considéré s'est abrité derrière le paravent du, enfin de plus en plus, hein, s'est abrité derrière le paravent du dialogue social.
Ouais, j'ai bien compris.
Mais au lendemain de la Première Guerre mondiale, c'était une façon de mettre un peu tout le monde autour de la table. Et les employeurs, en principe, payent les cotisations sociales et donc payent l'UNEDIC.
C'est la raison pour laquelle ils sont à la table.
Mais effectivement, vu l'efficacité, notamment en termes de formation de l'UNEDIC, on peut effectivement comprendre que l'État finisse par mettre son nez dedans. Effectivement.
Alors pour en revenir justement à Gattaz, il a pas fait que cette déclaration, si mes souvenirs sont bons, Ludo, tu vas pouvoir le confirmer. Il a également le souhait de sortir de l'OIT. Donc, est-ce que tu as pu vérifier cette information?
Alors, l'OIT, c'est l'Organisation Internationale du Travail. Et donc, il veut renier, en quelque sorte, retirer la parole de la France de la Convention 158. Qu'est-ce que la Convention 158? Eh ben, c'est celle qui permet de motiver les licenciements. Donc, l'argument de M. Gattaz, c'est qu'elle a été signée en 84, si mes souvenirs sont bons, et qu'elle a été signée par un nombre restreint de pays, qui sont essentiellement des pays nordiques, qui ont adopté le modèle continental de protection du salarié, que l'OIT promeut, bien entendu, bien qu'il ne soit rarement respecté. Parce qu'aux États-Unis ou en Angleterre, hein, vous n'avez même pas de préavis de licenciement, voilà, et de protection. Donc, l'argument de Monsieur Gattaz, alors il n'y a pas l'argument de Monsieur Gattaz, c'est bien entendu, lever les freins à l'embauche.
Ben oui.
Et donc, c'est dommage qu'il ne promette pas 1 million d'emplois cette fois-ci, parce qu'on l'aurait cru.
Est-ce que ça marchera, ça, justement?
Alors non, la question n'est pas là, mais la question est simplement que Monsieur Gattaz a déjà obtenu avec Monsieur Macron la barémisation des licenciements sans cause réelle ou sérieuse.
Ça, c'est des ordonnances, c'est ça? C'est
dans les ordonnances, tout à fait. Ouais. Et donc, avec le même argument que ça effrayait les employeurs de devoir payer des choses. Et donc, il fallait, devant la justice, proratiser, en quelque sorte, les indemnités de licenciement. Sachant qu'effectivement, le rôle du juge était quand même d'apprécier les dégâts et aussi le motif de licenciement. Donc, c'est-à-dire, c'était retirer une partie des prérogatives au juge, sachant qu'en définitive, pour 30 ans d'entreprise, je crois que vous aviez droit jusqu'à 20 mois de salaire, oui, en plus pour 30 ans d'entreprise, hein.
C'est
donc
ça,
20 mois de salaire,
ouais, 20 mois, ouais,
plafonné. Donc, ce qui est pas énorme. Et donc du coup, en fait, le problème, c'est qu'on a, donc il a obtenu ça, il a obtenu aussi un certain nombre de concessions via les ordonnances qu'on a vu, hein, c'est-à-dire la capacité de négocier au niveau de l'entreprise certaines choses. Il a obtenu aussi le fait de, si vous voulez, d'avoir un référendum interne à l'entreprise, un référendum qui, aux dernières nouvelles,
de moins de 50 salariés.
De 20 salariés.
De moins de 20 salariés,
oui. Oui, de moins de 50, mais oui, qui s'appliquera aux petites entreprises, c'est-à-dire y compris aux entreprises où il n'y a qu'un seul salarié.
Ah oui.
Et oui, ben c'est comme ça.
C'est-à-dire,
hein,
l'auto-entrepreneur, quoi, en gros.
Non, l'auto-entrepreneur a rarement des salariés, non, bien sûr.
Oui,
que non.
D'accord.
Là, des toutes petites entreprises. Toutes
petites entreprises,
artisans,
okay,
en fait.
Au moins un salarié, d'accord.
Voilà. Bon, du coup, l'auto-entreprise n'est pas liée au nombre de salariés, mais de fait, les auto-entrepreneurs embauchent très rarement des salariés, en fin de compte. Et un référendum qui ne sera pas à bulletin secret, aux dernières nouvelles. Hein.
D'accord. Donc à main levée, donc ce qui veut dire qu'il y a toutes les compromissions.
Alors, la loi impose que l'employeur ne soit pas là, mais il n'interdit pas que des membres de la famille qui sont dans l'entreprise, parce que c'est souvent le cas, ces petites entreprises et qui sont salariés, soient là.
Et alors, ça veut dire que si c'est à main levée, ça veut dire que toutes les personnes qui sont présentes et qui seront là, donc qui vont voter à main levée.
Tous les salariés.
Ils peuvent très bien faire pression sur les autres pour qu'ils votent autrement.
Après, non, mais on saura qui.
Et
dans des toutes petites entreprises. Et voilà, c'est ce qui. Alors, du coup, pour revenir à cette histoire d'OIT, je rappelle quand même que la motivation du licenciement, c'est ce qui fonde, un, le droit du travail. Donc, et le licenciement, et deux, l'indemnisation à l'UNEDIC, puisque vous devez, comme tout salarié, vous devez savoir que si vous, auparavant avec l'UNEDIC, quand vous aviez été victime d'un licenciement économique, vous touchez un peu plus. Quand vous étiez victime d'un licenciement pour faute, vous touchez quand même vos indemnités. Pour fin de CDD, vous touchez aussi vos indemnités, ça, d'accord. Par contre, pour faute grave ou lourde, vous ne touchez pas d'indemnités. Et puis, en cas de démission, vous ne touchez pas non plus d'indemnités. Donc, le fait de pouvoir se débarrasser du jour au lendemain sans motif valable et sans recours juridique, c'est qu'on fait un pas après avoir obtenu et avoir été satisfait par les ordonnances, bah, on devrait obtenir un peu plus, parce que manifestement, on n'a pas encore été assez loin. Et donc, pourquoi en fait pourquoi ce pas hein, de Monsieur Gattaz, cette déclaration, c'est qu'en fait certains chercheurs, donc Monsieur Jean Tirole par exemple, entre autres Monsieur Cahuc et certains hommes politiques au hasard Monsieur Valls,
encore lui,
sont favorables au contrat de travail unique qui conduit à la possibilité d'un licenciement dans une période qui peut aller jusqu'à 12 mois, sans motif, les 12 premiers mois d'embauche. Alors, franchement, on se demande, hein, 12 mois, c'est très long, mais on sait qu'en fait, les périodes d'essai ont été quand même extrêmement rallongées, notamment pour les cadres.
C'est 6 mois, je crois, les cadres, non ?
Je crois que c'est 6, et je crois que c'est 9 mois, même.
9 mois maintenant, ouais.
Bon, c'est-à-dire, c'est quand même très très long, et on se demande, 12 mois, bon, ben voilà, ils ont gratté encore, vous voyez, ça va être encore ratisé en fonction du... Mais, voilà, on va encore gratter 6 mois. Et puis ça rappelle un autre contrat qui s'appelle le CNE, qui était une brillante invention de Monsieur Dominique de Villepin, et qui effectivement permettait à une petite entreprise de moins de 20 salariés, donc les toutes petites entreprises, de licencier pendant 2 ans.
C'est ça.
C'est
terrible.
Donc, alors les journalistes qui parlent de ça n'ont pas de mémoire, hein, parce que certains, j'ai vu dans certains trucs qu'il s'agissait de notamment des articles du Figaro, que ce CNE concerne les entreprises de plus de 20 salariés. C'est faux, c'est des entreprises de moins de 20 salariés, donc c'était pour les petites entreprises. Et le CNE n'a pas été abandonné, contrairement à ce que dit le Figaro, parce qu'il a été déclaré illégal par l'OIT, donc l'Organisation internationale du travail, mais c'était bien une décision politique de notre ami de Villepin, après l'échec du CPE, qui était le même type de contrat. Simplement, voilà, personne n'en voulait, en fait. Hein. Alors, l'article que j'ai lu toujours du Figaro sur cette question mentionne, tout d'un coup, une flopée de création d'emplois extraordinaire, et qui, voilà, montre bien que l'OIT a mis des bâtons dans les roues, c'est des gauchistes, l'OIT, qui a empêché la création d'emplois, mais la réalité était tout autre, c'est qu'à chaque fois vous créez, si vous voulez, des contrats, alors typiquement, hein, et même dans un autre genre, par exemple, le contrat l'auto-entreprise a rencontré un franc succès.
Oui, c'est vrai.
Sa première création. Et puis au bout d'un an, on s'est aperçu qu'il n'y avait même pas 50%, et même moins de 50% des gens, qui déclaraient un bénéfice. Donc c'est-à-dire, et évidemment, le rythme de création des auto-entreprises s'est ralenti. Et là, c'est le même effet. C'est-à-dire que dans un premier temps, on a bénéficié de l'effet d'aubaine, et puis il y a eu aussi les suppressions, les licenciements. Ce qui fait que si on établissait le bilan du CNE aujourd'hui, en termes de création d'emplois, il faudrait certainement pas se contenter des premières créations d'emplois, mais bien des créations d'emplois plus des licenciements. Et effectivement, le bilan du CNE était quand même pas très favorable pour les salariés qui avaient basculé en CNE parce que c'était permis à l'époque. Et donc voilà. Et donc, tu t'avais posé une question de savoir si la déréglementation du travail conduit à l'embauche. Eh ben, à ma connaissance, et ça c'était l'OIT qui le disait, aucune étude sérieuse ne permettait de le dire, et il existe de la littérature, mais finalement de la littérature théorique, parce qu'en fin de compte, si on prend les pays où le marché de l'emploi a été dérégulé, en fait, en équivalent ETP, c'est-à-dire en équivalent temps plein,
oui,
le niveau d'emploi n'est pas extraordinairement plus élevé
quoi,
que ça. Voilà. Par contre, ce qui c'est qu'effectivement le temps partiel a été multiplié parce qu'on peut effectivement embaucher n'importe qui à n'importe quelle condition.
C'est ça. Mais merci beaucoup Ludo. On va s'écouter une petite chanson pour reprendre le souffle et on reprend la parole.
Je vous vois encore en robe d'été blanche et jaune.
C'était « Je vous vois encore » de Léo Ferré, chanté par notre ami Frédéric, que vous avez pu entendre dans cette émission il y a 2 mois à peu près. Une très grande chanteuse, voilà. Nous reprenons cette émission, c'est Mode d'emploi sur fréquence Paris Pluriel 106.3 FM avec Ludo et Gilles moi-même au micro et Claude à la technique. Nous avions avant cette chanson parlé des plus démunis, et nous en parlons maintenant des plus riches puisque le gouvernement a décidé de supprimer l'ISF, hein, l'impôt sur la fortune, pour le remplacer par l'IFI. Donc l'IFI, c'est l'impôt sur l'immobilier, hein, sur les biens qui ne bougent pas en fait. Hein, voilà, donc tout ce qui est maison, résidence principale, entreprise, etc., terrain. Et donc cette nouvelle loi, enfin cette nouvelle taxe va donc toucher, ça va être 30%, donc ça va être un taux fixe de 30% pour tous les biens.
Plafonné à
30%, merci Ludo pour la précision.
Maximum
à 30%. Donc c'est qu'en est-il exactement de cette décision? Apparemment, ça va faire une perte pour l'État pour le coup, parce que les
ah carrément oui, oui voilà. Je confirme, puisqu'en fait effectivement donc c'est la disparition, on peut le dire comme ça, l'enterrement de l'impôt sur la fortune, puisqu'en fait sont exonérés de cet impôt tout ce qui auparavant était actions, dividendes, y compris ce qui est classé comme actif improductif, c'est-à-dire compte courant, métaux précieux, biens de luxe, hein, voitures, etc. Même si on veut remettre deux, trois trucs sur les yachts. Mais pour vous donner une idée, les fameux actifs improductifs, hein, compte courant, métaux précieux, biens de luxe, représentent 36% de l'assiette taxable. Ça représente 2 milliards d'euros. C'est énorme.
C'est énorme.
Et le gouvernement ne tient absolument pas à... bien qu'ils soient au courant de ces chiffres qui sont fournis par Bercy, ne tient pas à revenir, hein, au moins sur sur ce manque à gagner, parce que bon, des comptes courants, des métaux précieux, tout ça devient de luxe, ça va devenir effectivement très rentable, hein, de continuer en fait à investir, par exemple dans des tableaux de maîtres, pour défiscaliser ce que font des grandes fortunes, hein, des très grandes fortunes. Alors du côté de la réforme sur l'immobilier. Il faut savoir une chose, c'est qu'effectivement, elle est plafonnée à 30% en fait, hein, de sa fortune. Et donc, l'idée, ça partait, enfin, dans l'état d'esprit, j'allais dire d'une bonne intention, mais c'est pas le mot, dans l'esprit de notre président, hein, très élevé, il s'agissait, en fin de compte, d'exonérer donc les capitaux et de tenter de dégonfler la bulle immobilière en taxant simplement les biens immobiliers. Et donc, à qui cela pouvait-il profiter? Bien entendu, à ceux qui possèdent des dividendes.
Bien sûr.
Et donc, qui sont bien entendu les... C'est vrai, quand on rentre dans la sphère des 1% et ensuite des 0,1%, aux plus hautes fortunes. C'est-à-dire que plus votre fortune progresse et plus la majorité de sa constitution n'est évidemment plus l'immobilier. Donc c'est évidemment des gens très 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 riches.
D'ailleurs, ça me rappelle juste une chose, dans le Canard enchaîné il y a très longtemps, j'avais lu un article sur Liliane Bettencourt, hein, qui était la femme la plus riche du monde.
Elle payait 6% proportionnellement à sa fortune.
C'est ça.
C'est-à-dire, et ce qui ne l'empêchait pas de posséder une île entière. C'est ça. Alors, donc le problème, c'est que avec cette réforme, hein, qu'on a vu qui est plafonnée, et ben d'après les premiers calculs, deux soucis se profilent. C'est que un, en définitive, certains contribuables, donc qui payaient l'ISF, vont y gagner en fin de compte, c'est-à-dire qu'ils paieront le cadeau fiscal, la ristourne sera évidemment bien plus importante que bon, ça c'est logique, mais même par rapport au calcul de leur immobilier, de leur impôt sur l'immobilier, juste par rapport au calcul de leur immobilier, ils seront tout de même gagnants. Du fait du plafonnement, en fait, à 30%. Alors, ce qui fait évidemment un manque à gagner. Et puis, pour vous donner des chiffres, hein, toujours fournis par Bercy, les 100 premiers contribuables à l'USF seront exonérés en moyenne de 582 000 euros par tête de pipe. Les 1000 premiers de 172 000 euros. Ça donne un coût total de 1,3 milliard d'euros pour tous ces contribuables en 2009, et on obtiendra 1,3 milliard, c'est ça, j'ai dit 1,9 en 2014, et les 44% de ces 1,3 milliard seront accaparés par les 1% les plus riches. Donc c'est bien une réforme pour les plus riches, bon ça, tout le monde s'en était douté,
oui, bien sûr.
Mais c'est pas fini.
Ah,
et oui.
La cerise sur le gâteau, Ludo.
Bien sûr, parce que franchement, je veux dire, les grandes fortunes auraient pu estimer que Monsieur Macron, s'il s'était contenté de cette réforme, de la suppression de l'ISF, était joué petit bras. Mais non, parce que Monsieur Macron est quand même quelqu'un qui a une vue plus large que ça. Et donc, tant qu'à faire, et dans sa grande logique hein, de favoriser l'investissement, il fallait bien plafonner l'impôt sur le capital. Donc, qui dit impôt sur le capital, je disais parce que ça fait marxiste comme ça, mais c'est concrètement, ça veut dire un impôt sur les dividendes.
Oui, c'est ça. Ouais. Les dividendes donnés aux...
Qui étaient déjà donnés, bien sûr, aux actionnaires.
Aux actionnaires, bien sûr.
Tout le monde aura compris, mais pas que. Puisqu'il peut aussi y avoir des rémunérations en dividendes pour les absolument. Plus grands. Alors, je veux dire, évidemment, la réforme de l'ISF concernait déjà ceux qui touchaient des dividendes, mais ça ne suffisait pas. Donc, il faut bien les plafonner à 30% dans une optique d'arriver en 2022 à 25%. Et pourquoi ? Dans une logique de concurrence fiscale par rapport aux pays essentiellement anglo-saxons, mais pas que, bien sûr. Il faut que les capitaux restent en France. C'est le soi-disant la meilleure façon
de relancer.
Soit réinvesti.
D'accord.
Ça reste vraiment un sujet à caution. Et donc, ce petit plafonnement cumulé. Avec la réforme de l'impôt sur la fortune, devrait, selon les calculs de Bercy toujours, provoquer une ristourne annuelle de 4, ou plutôt un manque à gagner pour le Trésor, de 4,2 milliards à 5 milliards d'euros. Ok ? Ouais. Donc, c'est à peu près, c'est déjà plus que le montant des employés, hein, pour être clair.
C'est clair, bah oui.
Et puis... Mais à quoi il faudrait, si on voulait être vraiment tout à fait honnête, rajouter le CICE de M. Hollande, hein, qui a coûté 60 milliards sur je ne sais pas combien d'années, enfin sur le début de son application, donc ça va commencer à faire vraiment beaucoup. Mais tout ça, tous les chiffres que je donne là, sont des chiffres qui ont été fournis à la demande du rapporteur de la commission
des finances
ouais. Du Sénat, je crois,
ouais, c'est possible.
Qui était un ancien socialiste et qui a fait des pieds et des mains auprès de Bercy pour obtenir ces chiffres. Donc c'est Bercy elle-même qui chiffre. Mmh. Et Bercy a déjà chiffré l'éventuel gain en termes de croissance et de création d'emplois. Donc, tout ce que je suis en train de raconter, chers auditeurs, rassurez-vous, ce n'est pas des délires d'extrême gauche, mais c'est bien des sources gouvernementales. Et donc, selon Bercy lui-même, eh bien, au total, parce qu'ils ont des logiciels de macroéconomie qui permettent de simuler, bon, ils peuvent se tromper, hein, bien sûr, personne n'est parfait. Mais enfin, quand même, ils ont quand même évalué à le gain final de ces mesures, final et définitif, à 0,5 point de croissance, c'est-à-dire 10 milliards d'euros en tout et pour tout. Pour le dispositif complet, c'est-à-dire l'effet d'aubaine, en quelque sorte, du dispositif, ce qui équivaudrait à peu près à 50 000 emplois à long terme.
C'est voilà. Rien, quoi. C'est clair.
Exactement. Et ce qui indique qu'au bout de sa troisième année, la réforme aurait un rendement négatif. Donc, c'est-à-dire qu'à la fin, on aurait effectivement, bien entendu, une baisse pour le Trésor. Mais ce n'est pas fini.
Ah.
Parce que tout ça est vraiment très, très compliqué. Et du coup, un économiste s'est penché sur la question et a publié une tribune dans Le Monde, une tribune retentissante, en disant « Mais enfin, cette réforme a déjà été mise en œuvre en Finlande entre les années 92 et 95 pour répondre à la crise. » Dans la même logique, alors je rappelle que la Finlande est un pays qui est extrêmement égalitaire, mais pour faire face à la crise, il fallait détaxer le capital, toujours dans la même logique, hein, blabla, de favoriser le rendement. Et cet économiste dit une chose très simple, c'est qu'il dit mais il y a un petit souci, c'est qu'avec votre baisse massive en fait d'imposition sur le capital, vous arrivez à une différence par rapport à la taxation du travail. C'est-à-dire que la taxation du capital devient effectivement beaucoup plus rentable. Donc, ce qui signifie qu'au point de vue des très hautes rémunérations ou des hautes rémunérations tout simplement, ma foi, le calcul il est vite fait pour ceux qui touchent des gros salaires hein, pour faire ça, c'est qu'au fond il vaut mieux déguiser le salaire en prime, en dividende, en fait. C'est beaucoup plus rentable. D'accord ?
Absolument.
Et donc, c'est une incitation à basculer les hauts revenus vers les dividendes. Alors, du coup, le problème, c'est que ça s'est déjà passé et qu'on a déjà eu des chiffres, des effets de cette réforme. Donc, le dit l'économiste, chiffre, bon, bah, de 1 milliard par an. Si vous prenez l'exemple, si vous comparez à l'exemple finlandais, on serait plus proche en réalité de 10 milliards par an si cette bascule, si cette incitation fiscale se savait en fait et effectivement si on jouait à plein dessus, ce serait tout à fait possible d'arriver à à 10 milliards par an. Alors, il y a un souci, hein, c'est qu'évidemment, le fait de ne pas payer, alors c'est évidemment un manque à gagner fiscal considérable, mais c'est aussi un manque à gagner pour l'assurance sociale. Donc, c'est une, puisque c'est une baisse de fait des cotisations. Et du coup, 30% des hauts revenus en Finlande ont été impactés par cette mesure entre 92 et 95. En Finlande, de 93 à 2000, les cotisations sociales ont effectivement reculé de 2,5 du PIB. Bon, certes, en 7 ans. Enfin, dans une période de croissance. Parce qu'à l'époque, la Finlande se portait bien.
C'est plus fort aujourd'hui.
De Nokia. Oui, voilà. Mais à l'époque, en 93, alors que il y avait un resserrement. Donc, à la fin, effectivement, il a fallu comprimer les dépenses publiques. Et donc, c'était la justification de la fuite fiscale ou de l'organisation de la pérennité devient la compression et donc des services publics effectivement, mais surtout de l'assurance sociale, maladie, l'hôpital. Donc en résumé, et donc bien entendu une augmentation des inégalités.
Bien sûr.
Donc au fond, ce qu'est en train d'organiser Monsieur Macron, mais on s'en doutait tous, c'est que sous couvert de baisse fiscale, il annonce la prochaine cure d'austérité, prochaine purge d'austérité, évidemment pour le service public, pour l'hôpital, des droits sociaux.
Bien sûr.
Voilà.
Non, moi, j'ai des chiffres quand même. Je me permets. Alors, vous avez peut-être vos chiffres, mes chers auditeurs, mais moi, j'ai aussi des chiffres. Hein. Voilà. Donc, c'est tiré de la presse. Hein. Alors, je me souviens plus très bien quel journal. Mais apparemment, 50% du patrimoine des plus riches aurait augmenté. Le patrimoine des plus riches aurait augmenté de 50%, pardon, sur les 10 dernières années. Et la partie des bénéfices donnés aux actionnaires par les dividendes, aura augmenté de 57% dans la même période, c'est-à-dire que 57% des dividendes a augmenté sur les 10 dernières années. C'est-à-dire que les riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent, c'est bien connu.
Et c'est l'effet direct,
c'est
la taxation du capital.
Et, absolument.
Je veux dire, c'est aussi la détaxation du capital, en fait, qui conduit d'une certaine façon à quand même à constater qu'il n'y a pas d'investissement. Pas plus d'investissement, et c'est valable aux États-Unis, mais par contre, qu'on préfère faire jouer l'épargne, entre guillemets, hein, l'épargne au sens large, mais ça peut vouloir dire la bourse, et non pas la bourse dans l'investissement aux entreprises, mais bien la bourse dans les activités spéculatives. Et donc, le taux d'investissement, pour le moment, est bas, et rien n'indique que de telles mesures conduisent à redresser l'investissement.
Alors, j'ai un autre exemple, donc on va prendre un exemple tout bête, hein. Un patron qui revend son entreprise 10 millions d'euros et qui possède une résidence principale d'une valeur de 1 million d'euros, ça fait donc 11 millions en tout, aurait payé hier 108 690 euros à l'ISF dans son ancienne version, avec une assiette imposable de 10,7 millions d'euros d'après le vêtement de 30% pour résidence principale. Avec l'IFI, donc là, un truc sur le patrimoine immobilier, il ne paierait tout simplement aucun impôt sur le patrimoine, son assiette imposable étant réduite à 700 000 euros, soit 600 000 euros de moins que le solde d'entrée dans l'impôt. Donc, ce qui veut dire qu'avant, il payait un impôt qui n'était pas énorme, mais 106 000 euros, c'est pas mal.
L'ISF, hein, juste l'ISF.
Juste l'ISF. Et aujourd'hui, grâce à cette nouvelle version, il ne paye zéro. Alors qu'un simple travailleur qui bosse qui trime au boulot, il va se payer, il touche 1 600 euros par mois, il va payer 1 800 euros d'impôt à la fin de l'année. Donc, c'est inique comme situation. C'était quelque chose à dénoncer. Je pense que tout le monde l'a déjà fait.
Oui, après, on peut toujours dire que, effectivement, les personnes, les ménages les plus riches, ne payent pas les mêmes impôts que, voilà. Quand on arrive à un tel niveau de revenus, on ne sait pas toujours quoi en faire. Et en tout cas, il n'y a pas de souci pour en vivre, ce qui n'est évidemment pas le cas de quelqu'un qui touche 1 800 euros. Aujourd'hui, ou 1 500 euros à Paris.
Mais je te remercie, Ludo. On va côté une petite chanson, on va parler de la flat tax, qui est quand même aussi un sujet très important. On reprend la parole par la suite. Et oui, ce morceau s'appelle The Shadows, c'était de Nivran. C'est l'inverse, pardon. Donc c'était, ça s'appelait Nivran. C'est le technicien qui est derrière le micro qui m'explique que c'était pas le bon titre. Excusez-moi. Donc c'était Zod Shadow, c'est le chanteur, voilà. Enfin le musicien, pardon. Et c'était Nivran le titre de la chanson. Enfin du. Oui, voilà. Oh, c'est dur là ce soir. On va reprendre cette émission. Voilà pour voilà, c'est l'émission de mode d'emploi sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM avec Ludo et moi-même au micro, Gilles. Et Claude à la technique. Alors avant la chanson, j'avais dit qu'on avait parlé de la fat tax. En fait, je m'étais trompé parce qu'en fait, on en avait déjà parlé auparavant. Donc, je vais arrêter de fumer la moquette et on va parler maintenant, effectivement, de la croissance, puisqu'il paraît que la baisse du chômage serait due à une forte croissance. Ludo, qu'en est-il? Ça me paraît un peu tiré par les cheveux, ça, cette histoire.
Non, je crois que plus aucun économiste, non, je plaisante en fait, ne lit croissance et chômage, enfin en France du moins. Alors oui, certains économistes ont dit bon, finalement ça peut pas être pire que les 10 dernières années, donc au fond ça peut qu'aller mieux, hein. Rien n'est moins sûr en fait. Et pourquoi? Puisque ces fameuses croissances hein, de 0,6% au dernier trimestre, pensez donc 0,6% au dernier trimestre, qui arrive à aboutir à une croissance cumulée de 2%. Pensez donc, on n'avait pas vu ça depuis 2011, donc il y avait de quoi, hein, 4 trimestres consécutifs d'augmentation à 0,5%, il y a de quoi frémir.
Ah, moi, nous sommes heureux.
Voilà, nous sommes heureux, nous sommes des gens heureux. Voilà, mais tout le monde n'est pas de cet avis. Et donc j'emprunte ici mes infos à Mediapart, qui m'a beaucoup aidé pour contribuer. Et donc, dans un article excellent, qui rappelle que la croissance qu'en fait de ces dernières années a quand même été très, enfin, fortement... croissance relative de cette dernière année, excusez-moi, a été quand même tirée en partie, enfin très liée à la politique très 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 accommodante de la BCE, et c'est-à-dire de taux pratiquement à zéro et du quantitative easing hein, qui permet d'injecter des liquidités dans l'économie. Bon, elle l'a fait la Banque fédérale américaine, mais avec retard. Conséquence, ce taux zéro favorise bien entendu l'immobilier. On parlait de bulle immobilière, donc la construction, bien entendu, l'endettement des entreprises et des ménages, et en principe, et ça je dis bien en principe, la consommation des ménages. Chose qui en France, la consommation des ménages est toujours une donnée importante par rapport à nos voisins allemands qui, eux, exportent. Donc, moralité, on est arrivé à 130% de dette privée, entreprise plus ménage, 130% du PIB. Bon, on ne sait pas si exceptionnel que ça, puisqu'en fait, la France a un taux d'épargne qui est toujours très élevé, parce qu'on est un peu paysan, sur les bords un peu catholique paysan, un petit peu comme l'Italie, et puis qu'on a un très bon système social aussi, qui nous permet d'épargner et pas de dépenser à l'hôpital, par exemple, hein, comme aux États-Unis. Et alors du coup, la croissance, elle est pas en super forme, hein, parce qu'en fait, elle est tirée en partie par l'immobilier, comme je l'ai dit, en partie par l'investissement, enfin c'est-à-dire l'endettement des entreprises, mais qui compense le retrait de l'investissement public, qui lui se contracte. Donc, la croissance serait tirée en partie par les investissements, qui sont de plus en plus faibles, tout de même. On parlait d'investissement tout à l'heure, donc rien n'indique qu'il soit très élevé. Enfin, on va attendre les résultats de la réforme de M. Macron, la construction et les services commerciaux. Donc les services aux entreprises ou aux particuliers. Mais l'économie souffre effectivement d'un problème structurel. Cette fameuse crise, comme l'appellent les économistes libéraux, la crise de la demande. Qu'est-ce que c'est que la crise de la demande? C'est que, en fait, à chaque fois que l'économie redémarre, les entreprises françaises ne peuvent satisfaire la demande intérieure française. Du coup, c'est les importations qui profitent du redémarrage en fait de la consommation des ménages.
Consommation des ménages.
Du coup, l'importation rose annule une partie de la croissance, bien entendu, parce que ça crée de la dette. Donc, je résume, parce que c'est vrai que la demande intérieure, la demande des ménages, est alimentée par la dette. Qui alimente les importations?
C'est ça qui est là que
qui annule une partie de la demande. Eh oui, c'est pour ça que soi-disant on fait une politique de l'offre. Je sais pas si on s'y prend bien, mais en tout cas, c'est pas comme ça que ça prend. Et donc, une partie de la croissance poursuit cette économie est constituée par les stocks. Alors, il faudrait m'expliquer comment les stocks font produire la croissance. Pour ça, c'est leur calcul. C'est-à-dire, en fait, les stocks accumulés qu'il faudra bien dépenser. Alors, voyons du côté de la consommation des ménages, parce que la consommation des ménages en France a toujours été un pilier, hein, quand même, de la croissance. Ouais. La consommation des ménages a été tirée au dernier trimestre par l'électricité, enfin la demande en énergie plus exactement. Pourquoi? Parce qu'il a fait frisquet en septembre. Et oui, on parle là d'une croissance du dernier trimestre, en fait. Hein.
Oui, oui, d'accord.
Précédent sur les 3 mois. Et par l'habillement. Pourquoi l'habillement?
Bah, je ne sais pas, tu vas peut-être me le dire, Ludo.
Bien sûr, oui. C'était les soldes.
Ah oui, j'avais pas pensé à ça, effectivement.
Ce qui fait dire à notre économiste qu'en définitive, la croissance du dernier trimestre, enfin du trimestre précédent, hein, pas du trimestre où on est bien sûr, est une croissance en trompe-l'œil. Et que la consommation des ménages, de toute façon, ralentit. Et la menace se précise d'un relèvement des taux d'intérêt de la BCE qui voudrait mettre fin au quantitative easing, qui sait très bien que il y a un risque sévère pour toutes les économies, y compris pour l'immobilier d'ailleurs, qui tire la croissance. Mais le taux d'inflation n'est pas très élevé, vous avez remarqué. Or, qui dit relèvement du taux d'intérêt dit possibilité de rechute de l'inflation, donc déflation.
Bien sûr.
Et déflation, c'est mauvais pour l'économie puisque ça alimente ainsi un cycle dépressionnaire. Mais de toute façon, le relèvement des taux d'intérêt en période de croissance quasi nulle, on va dire en réalité, parce que 0,6%, on va pas appeler ça une super croissance, en réalité, de toute façon, grippe les trois quarts du temps le moteur de la croissance. Et donc, est-ce que la croissance va se poursuivre dans les années à venir, enfin, ou même le prochain trimestre? Rien ne le garantit.
Ben oui.
Ce qui nous ramène.
Donc, ça veut dire qu'il faut changer de politique, alors, pour relancer la croissance.
Ah non, mais ça, écoute, on vient de voter, on va pas recommencer, hein. Moi, j'aimerais bien voter tous les ans, mais là, oui, bien sûr, que pour le moment, bon.
Revotons.
Et puis, voilà, mais, enfin, tout ça pour dire que, bah, la baisse du chômage, ça reste quand même très hypothétique pour les années à venir.
Ben, je te remercie beaucoup, Ludo. Comme d'habitude, t'as été excellent. T'auras le prix Albert Londres. C'était une plaisanterie. Non, c'était bien. Merci à Claude pour la technique. Bien sûr, restez avec nous pour les semaines prochaines. Toujours lisez notre émission de mode d'emploi. Également, nous, on revient dans un mois. Merci. Bisous aux filles et poignées de main aux garçons. Restez vigilants, surtout, et ne lâchez rien. Salut.
Aprieto firme mi mano. Y hundo el arao en la tierra. Hace años que llevo en ella. Como nuestra gota. Aprieto firme mi mano. Y hundo el arao en la tierra. Hace años que llevo en ella.